Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Patara, le débat politique de Radio Ndeke Luka. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, quel serait son impact direct sur l'Afrique en général et sur le Centrafricain en particulier? Le 24 février, le président russe Vladimir Poutine a déclenché les hostilités en lançant une opération militaire contre l'Ukraine. La Russie, deuxième puissance militaire mondiale, après les États-Unis, a plus de 850 000 soldats actifs, plus d'1 250 000 réservistes et plus de 250 000 éléments dans d'autres types de forces, et ceci avec un budget d'environ 154 milliards de dollars cette année par voie aérienne, terrestre et maritime. La Russie est entrée en territoire ukrainien. Plusieurs villes ukrainiennes sont bombardées. L'armée russe a aussi pris le contrôle de certaines villes telles que Kherson, Kharkiv, Mirapol et est toujours à la porte de Kiev, la capitale. On dénombre déjà des milliers de morts parmi les belligérants. L'état-major ukrainien parle de 6000 soldats russes tués et 200 autres capturés, ce que Kremlin dément et avance que 500 soldats ont été tués au cours de l'opération. Nous savons qu'une guerre de communication se joue énormément dans de pareilles situations. La guerre était-elle inévitable? Que faut-il pour l'arrêter maintenant? Jusqu'où pourrait aller cette guerre? Analyse, décryptage et critique dans ce débat politique d'aujourd'hui et avec nos invités ici dans le studio D de Radio Ndeke Luka, émettant en direct de Bangui en République Centrafricaine, Charles Armel Douban, bonjour.
Bonjour.
Docteur en relations internationales, ancien ministre des Affaires étrangères pendant le premier quinquennat du président Touadéra et ancien ambassadeur de la République Centrafricaine auprès de l'ONU, Fidel Gwandjika, conseiller spécial du président Touadéra et ancien porte-parole du gouvernement sous le régime de François Bozizé Nguvonda. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Paul Christian Beninga, bonjour.
Bonjour.
Docteur en sciences politiques, porte-parole du groupe de travail de la société civile, ancien chercheur. Et Martin Ziguilé, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à vous, président du mouvement de libération du peuple centrafricain MLPC, ancien premier ministre sous le régime de feu président Patassé. Bonjour à toutes et à tous, c'est moi, Armand Nguindi. Tout de suite, nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndeke Luka.
Voilà, première question. J'ouvre le débat avec vous, monsieur Charles Armel Douban. La diplomatie a failli, la guerre était-elle inévitable dans cette situation d'ailleurs de l'Ukraine?
Je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez. Je me réjouis d'avoir un panel aussi dense pour parler de cette préoccupation majeure pour la paix de notre planète aujourd'hui. Comme toute guerre, s'il y a la volonté, est évitable. La diplomatie, les négociations, les discussions précèdent la guerre. Ce n'est qu'en s'asseyant, quelle que soit la forme de la table, quelle que soit la difficulté et son ampleur, quels que soient les intérêts en présence, rien, absolument rien ne justifie la guerre. Mais en même temps, cette guerre qui naît montre qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'acquis. L'Europe qui pensait que après 1939-45, la paix est revenue sur ce continent, aujourd'hui doit revisiter sa position. Et tous les États du monde doivent faire le maximum pour éviter à ce que notre planète Terre soit en guerre. Et ce qui vient de se passer, qui se déroule encore, interpelle l'ensemble de la communauté internationale. C'est vrai que l'Ukraine est en Europe de l'Est, aux portes de l'Union européenne, dont la grande majorité des États sont membres de l'OTAN, mais l'Ukraine est proche de l'Afrique, proche de la République centrafricaine. Ce qui s'y passe nous interpelle et à plus d'un titre.
Voilà. Est-ce que la diplomatie, M. Ziguilé, a failli dans cette situation qui prévaut en ce moment en Ukraine?
Je vous remercie, je salue à nouveau mes co-débatteurs. Et je voudrais d'abord rappeler qu'il n'y a pas de crise spontanée, de génération spontanée. Les crises ont toujours une profondeur historique. Et ce qui se passe ici, en fait, oppose les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale qui, après Yalta, on répartit le monde en zones d'influence. Ça, c'est très important de le souligner. Et ce sont ces pays-là qui ont transformé la Société des Nations, l'ancien SDN, en Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire l'ONU. Et vous remarquerez que les vainqueurs se sont réunis dans le Conseil de sécurité avec droit de veto. Et ce droit de veto, ils l'ont conservé jusqu'à aujourd'hui. Après avoir séparé le monde en zones d'influence, il y a un accord tacite pour que chacun soit chef chez lui. Donc vous avez l'OTAN avec les pays occidentaux autour des États-Unis et l'ancien pacte de Varsovie avec les pays de l'Europe de l'Est autour de la défunte Union soviétique. Et lorsqu'il y a eu tentative de violation de ce statu quo avec la crise de Cuba, quand l'Union soviétique en 1962 a tenté de placer des fusées à Cuba, tout de suite il y a eu une réaction des États-Unis. Il y a eu cette célèbre passe d'armes aux Nations Unies entre le ministre des Affaires étrangères russe et ses collègues, soviétiques à l'époque, ses collègues, et ces fusées ont été retirées. Donc, il y avait une entente pour que chacun reste maître chez lui. Sauf que le pacte de Varsovie s'est désintégré après la chute du mur de Berlin. Et donc, les pays qui étaient dans l'ancienne Union soviétique se sont émancipés, dont l'Ukraine. Et aujourd'hui, il y a visiblement une tentative de reconstitution des zones d'influence. L'Ukraine a cherché à se rapprocher de l'Europe, a cherché même à intégrer l'Union européenne, en tout cas, dans un deuxième temps, entrer dans l'OTAN. Et visiblement, cela n'a pas plu à la Russie, qui a un chef qui, sur le plan historique, veut reconstituer l'Union soviétique, au moins sur le plan de l'influence politique. Et ce sont ces craquements qui ont donné naissance à cette situation de guerre. Mais je m'empresse de dire que la guerre que nous vivons aujourd'hui viole plusieurs principes de droit. Le premier, c'est le principe de l'intangibilité de frontières. Dès qu'une frontière est internationalement reconnue, il faut qu'elle soit respectée. Deuxième principe, c'est le règlement pacifique des conflits, qui est au cœur même du système des Nations Unies, tel qu'il est en vigueur aujourd'hui. Et le troisième principe, c'est le choix de la violence armée pour résoudre un problème politico-diplomatique. C'est pourquoi je dis que je suis d'accord avec vous que la guerre, c'est toujours l'échec de la diplomatie. Mais quelqu'un a dit aussi que la guerre, c'est la continuation de la diplomatie par d'autres moyens. Donc, au total, et pour m'arrêter là, oui, la diplomatie a échoué. On espère que la diplomatie fera en sorte que cette guerre-là s'arrête, parce que clairement, il s'agit de l'agression d'un pays indépendant, en tout cas. Et deuxièmement, il y a des hommes et des femmes qui meurent, des biens qui sont détruits, et parmi eux, il y a donc nos compatriotes africains, dont un centrafricain d'ailleurs, qui se retrouve pris au piège de cette guerre qui aurait pu éviter si la diplomatie avait été efficace.
On va faire le tour de cette table avec cette même question, mais si ça vous va bien, monsieur Fidel Gwandjikar, sur la question de la diplomatie dans cette guerre en ce moment en Ukraine.
Contrairement à ce qu'a affirmé monsieur Ziguele, président du MLPC et l'ancien ambassadeur de la République centrafricaine auprès de l'ONU. Moi, je pense qu'il ne s'agit pas de la reconquête des territoires, des anciens territoires de l'Union soviétique, et ni une reconstitution de l'ex-URSS. Et je voudrais dire ici, en emboîtant le pas à mon frère Martin, que cette guerre-là, ce conflit fratricide dont je m'incline sur les morts des deux parties et que je compatis également avec les sportifs de haut niveau qui ont été victimes d'une mauvaise propagande, pas de cette guerre, d'une mauvaise propagande anti-russe et qui empêche les sportifs qui n'ont rien à voir avec ce conflit, de participer à des compétitions internationales, dont les Jeux olympiques à Pékin. Alors, je dis que cette guerre-là n'est pas un accident. C'est une échéance. Il y a eu la diplomatie qui s'est impliquée depuis le 1er décembre 1991, après la chute du mur de Berlin, l'assassinat de Ceausescu, et c'est depuis cette date-là où il y a eu un référendum.
Pour la reconnaissance, oui.
Un référendum en Ukraine. pour leur indépendance. Ils avaient des territoires qui appartenaient à d'autres nations. Donc le problème est né de là. Et récemment, depuis 2014, il y a eu aussi des négociations. Beaucoup de négociations, beaucoup de diplomatie. Et la diplomatie a échoué. Et donc si la diplomatie ne peut pas régler ce problème, et que l'Occident et l'OTAN, c'est-à-dire l'Union européenne et l'OTAN, veulent venir planter des missiles au nez et à la barbe de la Fédération de Russie, je pense que Poutine et son armée ont le droit de se défendre. Et donc, aujourd'hui, la diplomatie reprend. Il y a eu une première négociation qui a échoué, une deuxième négociation qui est un peu positive, et ce week-end, il va y avoir une troisième négociation.
Avec un cessez-le-feu en cours.
Avec un cessez-le-feu en cours et un couloir humanitaire qui va s'ouvrir. Ce que je regrette, c'est que la démocratie au niveau de l'information a été bafouée. L'Occident ferme toutes les communications et les radios de télévision de l'URSS, non pas de l'URSS, de la Russie, aux Africains et à la population occidentale.
Mais je pense que c'est de part et d'autre, hein, de l'autre côté.
C'est maintenant que
la Russie,
c'est la Russie maintenant, elle ferme ses propres médias et également restreint également les propagandes anti-russes à la population russe. Voilà. Donc aujourd'hui, vous n'avez qu'un seul son. Vous ne regardez que France 24 et vous ne commentez que ce que France 24 dit, alors que la réalité
D'autres réalités, on aura le temps d'en découvrir dans ce débat. Paul Cressan Beniga, rapidement sur la même question que chacun se prononce en ce moment-là sur ça.
Alors, merci Armando de me passer la parole. Lorsque j'ai reçu votre invitation, je me suis dit pour ce débat, il y a au moins deux attitudes à adopter. La première, c'est d'être critique vis-à-vis de ce que les médias occidentaux nous servent comme information. Et la seconde attitude, c'est de s'inscrire dans une perspective socio-historique afin de mieux comprendre ce conflit et de mieux l'analyser. Et ça a été fait par mes dévanciers dans la prise de parole. Il y a des dates qui me paraissent extrêmement importantes. La première, c'est 1949, c'est l'OTAN. 1955, pacte de Varsovie, le bloc soviétique avec certains pays d'Asie. Il faut le relever. Ce ne sont pas que les pays qui ont formé à l'époque le bloc soviétique. La troisième date, c'est 1961-1962, la crise de missiles de Cuba. Au Cuba. 1991, ça a été rappelé ici par le ministre Nwandika, la dislocation du bloc soviétique. Et ce qui fait en sorte que nous assistons à une reconfiguration des blocs géopolitiques. Je m'explique. Nous avions à l'époque, au sortir, si vous voulez, de la guerre froide, deux blocs qui étaient manifestement constitué. L'Occident avec les États-Unis d'une part, le bloc soviétique d'autre part. Mais la dislocation du bloc soviétique fera en sorte que, vous verrez qu'en 1991, la Russie va prendre attache avec l'OTAN. Non pas pour être partenaire ou pour pas être membre, pour redéfinir un certain nombre de principes à respecter. Et ça a été implicitement rappelé par le ministre Nwandika. Vous savez par exemple qu'il y a une jurisprudence avec la crise de 1962, la crise de Cuba. Parce que c'était à moins de 160 km des États-Unis lorsque les Russes ont posé les fusées capables de transporter les armes nucléaires. Et donc à moins de 160 km des États-Unis. En contrepartie, lorsque les Russes ont retiré ces fusées, les États-Unis ont plus ou moins renoncé à cette ambition de vouloir annexer le Cuba. Et donc, pour les Russes en 1991, lorsqu'il y a reconfiguration de ce que j'appelle les blocs soviétiques, les blocs géopolitiques, il était extrêmement important qu'il y ait des zones tampons vers l'Est. Et l'Ukraine, manifestement, fait partie des pays tampons entre l'Union européenne,
considéré comme
membre de l'OTAN, l'espace géopolitique OTAN et la Russie. Et donc, au fur et à mesure, il y a certains pays à côté de l'Ukraine qui sautaient. Et l'Ukraine, jusqu'à preuve du contraire, demeure le seul pays tampon vers l'Est entre l'OTAN et la Russie. Le fait aujourd'hui que l'Ukraine toque à la porte de l'OTAN d'une part et de l'Union européenne d'autre part constitue pour la Russie et plus précisément pour Poutine une forme de menace. Ça rappelle 1962, la crise de Cuba. Et ça, c'est extrêmement important. Mais ce qu'il faut relever ici, c'est que l'Ukraine est entre le marteau et l'enclume.
Et l'enclume, oui.
L'Ukraine veut aller à l'Union européenne.
Avec l'OTAN.
Ça fait sauter la zone tampon, le pays tampon, et la Russie se sent inquiète.
Menacée.
Et l'Ukraine, c'est un pays qui peut faire valoir son droit à l'autodétermination.
Ce qui a été fait en 1991.
Exactement. C'est un pays qui peut faire valoir son droit à l'autodétermination. Ce qui implique au plan international également des choix. C'est des ça. Choix politiques.
Exactement.
Et le fait aujourd'hui pour la Russie d'empêcher l'Ukraine de toquer à la porte
de l'Union européenne constitue une entorse à ce droit à l'autodétermination. Mais il y a un aspect qu'il faut soulever ici. Parce qu'à un moment donné, le jeu, c'est de dire où se trouve l'agresseur et où se trouve l'agressé. Si on se situe dans une perspective socio-historique, ça devient extrêmement compliqué. Je vous donne un exemple simple. L'agression en droit international, et je parle sous le contrôle d'un spécialiste de droit international, ce n'est pas juste le fait de poser des actes militaires. L'agression en droit international, c'est des actes qui engagent la responsabilité internationale d'un État. Et donc
c'est l'Ukraine ici.
Je ne dis pas que l'Ukraine est l'agressée et la Russie est l'agresseur, vice-versa. Ça devient extrêmement compliqué. Maintenant, pour répondre à votre question, en parlant maintenant de la diplomatie...
Quelques secondes, oui.
Je vous dirai ceci. Et ceux qui ont pris la parole avant moi l'ont évoqué. Vous le savez, il y a deux figures en relation internationale. Le diplomate et le soldat. La diplomatie et l'armée. Lorsque le diplomate échoue, on envoie le soldat. Manifestement, nous sommes dans ce cas de contexte, mais ça ne veut pas dire que c'est un échec qui est définitif.
Est-ce que c'est dans l'idée de la diplomatie, lorsqu'on échoue avec la diplomatie proprement dite, on envoie l'armée? Est-ce
la diplomatie n'a perdu qu'une bataille? La guerre n'est pas encore perdue. C'est ce qu'il faut retenir. Lorsqu'on va dans une négociation et que la négociation n'aboutit pas, la guerre survient, mais ça ne veut pas dire
la
que...
La diplomatie a failli.
Et jusqu'ici, la guerre, comme il a dit, malheureusement, il y a des morts d'hommes. Mais ça reste toujours un moyen de pression. Et vous avez observé de part et d'autre, les gens ne sont pas fermés à la diplomatie. Les négociations sont en cours et il faut encourager cela.
Voilà, ce qui a provoqué la guerre, c'est l'intention de l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Mais la Russie s'y oppose farouchement parce qu'elle estime que c'est un danger pour sa sécurité. Mais qu'en est-il de la souveraineté de l'Ukraine à ce niveau, M. Martin Zeghili?
Oui, l'analyse de Paul Kreshev-Bedinga est allée, il me semble, assez loin au fond des choses. Parce que, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est une reconfiguration. Reconfiguration des zones d'influence, remise en ordre diplomatique en tenant compte des attentes et des espérances des pays leaders des deux blocs, hein, c'est-à-dire d'un côté la Russie et de l'autre côté les États-Unis. Je crois que l'Ukraine, comme a dit Beninga tout à l'heure, en tant que pays souverain, en tant que pays indépendant, a le droit de faire des choix. Ça, je pense qu'il faut lui reconnaître ce droit. Sinon, on vide la notion de souveraineté de sa substance. Maintenant, il est vrai qu'en faisant ce choix, l'Ukraine doit tenir compte des intérêts. Des intérêts. Je parlerai plutôt des intérêts de la Russie. J'ai suivi des débats par rapport à ce qui peut se passer aux scénarios qui peuvent être développés après cette période de conflit. Et certains pays ont évoqué la possibilité d'une neutralité de l'Ukraine. Parce que le problème, c'est cela. L'équilibre de la terreur qui est né de la possession des armes nucléaires, cet équilibre-là, et les États-Unis et la Russie tiennent à ce que l'équilibre soit maintenu. Donc, dès le moment où quelqu'un a le sentiment, parce que la peur commence toujours par le sentiment de l'insécurité, n'est-ce pas ? Puis il y a la réaction. Ça peut être la réaction du tigre ou la réaction du lapin. Mais ceux qui ont les moyens de réagir, lorsqu'ils ont le sentiment qu'il y a un déséquilibre qui joue sur l'existence de leur pays, ils déclenchent des luttes armées. Étant donné que, comme a dit Kreshev tout à l'heure, le soldat et le diplomate vont ensemble. Si la diplomatie échoue, on utilise le soldat. Mais c'est reversible. C'est comme une charnière d'une porte qui peut s'ouvrir à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est-à-dire, lorsque le soldat aussi a des difficultés, ou lorsque le soldat ouvre des brèches, ou crée une situation, un rapport de force
diplomate
qui permet au diplomate maintenant d'avancer sur un certain nombre de préoccupations, etc. Et je crois que nous nous acheminerons vers une situation où des engagements seront pris, confirmés sur le plan international, pour faire en sorte que les craintes des uns et des autres soient prises en compte, tout en respectant la souveraineté de l'Ukraine. Elle est fondamentale. Pourquoi je dis que le respect de la souveraineté de l'Ukraine est fondamental? Parce que, en dehors de la position théorique universitaire qui est de dire qu'on vide la notion de souveraineté de sa substance, ça veut dire que tous les pays ne peuvent plus prendre de décisions par rapport à leur sort à cause de leur voisinage. Et je vois en filigrane de la RCA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour prendre une décision de politique, même intérieure, il faut demander l'avis des voisins lorsqu'ils sont puissants. Donc la notion d'indépendance, la notion d'autonomie de jugement se vide automatiquement. C'est pour ça qu'un pays faible comme la RCA, un petit pays comme la RCA ou des pays, petits pays comme les pays africains doivent faire attention à ce qui se passe en Ukraine. Parce que les conséquences peuvent être très lourdes sur le plan de la gestion de leur avenir sur le plan international. Parce qu'il y aura deux classes de pays. Des pays qui ont tous les droits et qui peuvent réagir préventivement lorsqu'ils estiment que ces droits sont menacés, et d'autres qui doivent demander la permission avant de choisir leur destin.
Oui, Fidel Gondjikar, sur la question de la souveraineté de l'Ukraine par rapport à son choix vis-à-vis de la Russie, est-ce que cela peut vraiment causer de tort? Est-ce que l'Ukraine se sent vraiment menacée vis-à-vis de la Russie?
L'Ukraine est un pays indépendant. C'est un pays qui a accédé à la souveraineté internationale. Tout le monde le sait. Mais en dehors de cela, je l'avais déjà dit, depuis 1991, l'Ukraine, avec la Russie et l'OTAN, l'Ukraine a adopté la position de neutralité. Et ce pays devait être toujours neutre et non nucléaire. Et si aujourd'hui, l'OTAN est à la porte de l'Ukraine, parce que la Roumanie est membre de l'OTAN. Il n'y a pas que l'Ukraine qui est un pays tampon entre les pays de l'OTAN et de l'OTAN. Il y a la Moldavie aussi. Il y a la Moldavie. Il y a la Moldavie russe et il y a la Moldavie roumaine.
Transnistrie.
C'est ça. Donc, aujourd'hui, la Moldavie aussi a eu peur. La Moldavie demande tout de suite son adhésion à l'Union européenne. Et le même problème va se poser avec la Moldavie si la Moldavie devient un pays de l'OTAN. Voyez-vous, il y a d'autres pays aussi qui demandent tout de suite, la Biélorussie, qui demande en entrée, la Géorgie.
Mais ça devient intéressant, Alors, si aujourd'hui l'Ukraine a choisi d'adhérer à l'OTAN et que la Russie a réprimandé ou n'est pas du tout d'accord, est-ce que c'est la loi du plus fort?
Non, il ne s'agit pas de la loi du plus fort, il s'agit de ce qu'on appelle le consensus. S'il y a un consensus...
Mais vous venez de dire que l'Ukraine est souveraine.
Oui, l'Ukraine est souveraine. Je dis que l'Ukraine est souveraine. Mais il y a les principes de consensus entre les États pour qu'il n'y ait pas une guerre mondiale ou une guerre nucléaire. Voyez-vous ce qui se passe en ce moment? La preuve, c'est quoi? Aujourd'hui, la France voudrait envoyer un bataillon de Fatanser en Roumanie pour... rester aux aguets.
Comme ça a été fait dans les pays baltes.
Ces militaires ne sont pas encore arrivés. Ça a été refusé. La France a bloqué le processus. Les États-Unis ont envoyé des armes sophistiquées. Ce n'est pas arrivé à bon port. L'Occident demande à ce que toutes les entreprises isolent la Russie. Mais ils le font ça d'une manière... propagandaire, c'est de la propagande. Mais en réalité, ils ne l'ont pas fait pour certaines entreprises. Il y a des banques russes qui continuent de fonctionner avec le suite et qui vendent du gaz et qui vendent du pétrole à l'Occident. Voyez-vous, les Américains, l'OTAN, l'Union européenne, tous ces gens qui parlent là, aujourd'hui, le peuple ukrainien pleure. Le président de l'Ukraine, aujourd'hui, on commence à penser qu'il joue au théâtre. Les gens pensent qu'ils jouent au théâtre, mais effectivement, ils pleurent. Ils pleurent parce que son État, son pays est en train de disparaître. Son État est en train de disparaître. Et ceux qui disent qu'ils viennent pour pour secourir ce président-là, ils n'ont rien fait jusqu'à aujourd'hui. Rien que des promesses. Donc, le consensus doit primer pour garder... vraiment la planète Terre sans guerre, comme a dit l'ambassadeur.
Au gré du temps, lorsqu'on parle de consensus avec la déclaration ou la prise de position de l'Ukraine à ce niveau, du coup, l'Ukraine n'est plus autonome ni indépendante.
Non, il y a ce qu'on appelle l'indépendance économique, l'indépendance du point de vue juridique, indépendance militaire. Mais même tous ces pays sont indépendants, ils sont interdépendants. Et donc, pour éviter des conflits inutiles, il y a ce qu'on appelle, je le dis encore, du consensus au niveau de la neutralité des pays qui assurent les zones tampons entre l'Occident, entre l'OTAN et le bloc de l'Est.
Oui, M. Douban, voilà. Si l'on s'en tient aux multiples déclarations du président Poutine, est-ce qu'il est vraiment déterminé à renverser le président ukrainien Volodymyr Zelensky? Si oui, mais pourquoi s'en prend-il aux infrastructures et des fois aux civils?
Écoutez, comme un nombre de spécialistes, d'observateurs le disent, il n'y a que le président Poutine seul qui sait exactement où se trouvent ses limites, sa volonté d'aller. Et donc aujourd'hui, tout est fait pour essayer de contenir les velléités d'aller à la catastrophe. Comme ça a été si bien rappelé autour de cette table, l'Ukraine, depuis 1991, pays souverain, membre de la communauté internationale, a fait le choix de s'autodéterminer, ses choix diplomatiques, ses choix économiques, ses choix politiques. Dans cette zone, il y a eu, au sortir de 1945, le cas de la Finlande, qui est dans une neutralité, mais qui aujourd'hui, à la lumière de ce qui se passe, revisite sa position. La diplomatie, malgré les destructions du moment, malgré l'amplification de la guerre, a toujours cette passerelle. Les négociations qui sont ouvertes, les communications qui sont quasi régulières, il y en a eu deux depuis le déclenchement de la guerre, entre la France et la Russie. Ensuite, il y a quelques passerelles au niveau, malgré les sanctions, la coupure de suite, un certain nombre de mesures qui ont été prises. Il y a toujours ces passerelles pour essayer de donner la chance à la négociation. Et vous prendrez les demandes du président ukrainien comme des jérémiades, mais c'est quelqu'un qui volontairement se bat pour la survie d'un État aux côtés de la Russie, pour la fierté, la dignité et l'autonomie de 45 millions d'hommes et de femmes qui ont opté pour un mode de vie complètement différent, quand bien même caucasiens comme les Russes soient-ils, ils ont opté aujourd'hui pour un camp. Et cette demande d'appartenance à l'OTAN comme à l'Union européenne, c'est exactement comme ça a été si bien rappelé ici, pour se prémunir de la volonté expansionniste d'un partenaire. Et donc aujourd'hui, il n'y a que Poutine seul qui sait exactement où il doit aller, mais les actions de part et d'autre, les sanctions, quoi qu'on dise, ont commencé à avoir leurs effets. On ne va pas fermer les possibilités d'aller à un blocage dont les effets pervers risquent justement de déstructurer toute la zone. Mais ces passerelles sont permises pour essayer de continuer à donner les chances à la diplomatie, à donner les chances pour la survie de l'Ukraine. Quel que soit ce qui va arriver, les négociations finiront toujours par mettre les uns les autres dans un contexte qui permette la sauvegarde des intérêts russes et la sauvegarde de 45 millions d'hommes qui n'accepteraient pas, à moins qu'on veuille devenir l'Ingouchi ou l'Abkhazie, que tout soit fait pour que ce pays-là disparaisse de la carte. Non. Depuis 1991, cet État existe aujourd'hui, est reconnu au niveau international, travaille et dans l'économie mondiale, ce pays pèse. Et on ne va pas aussi facilement de laisser un pays de cette nature-là tomber entre les mains, justement, de la Russie. La reconfiguration, en réalité, la reconfiguration qui se fait en ce moment, devait tenir compte, effectivement, de ce passé. Mais la position du peuple ukrainien et sa volonté d'aller de l'avant, distinctement du peuple russe, est manifeste. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, l'Ukraine survivra. Même diminué, mais vous savez, même la Finlande a commencé à reconsidérer sa position par rapport à son armement. L'Allemagne, au sortir de la guerre, comme le Japon, avait été interdit de se réarmer. Aujourd'hui, l'Allemagne octroie 100 milliards immédiatement pour moderniser son armée et désormais 2% du PIB vont être réservés pour son armée. Et donc, c'est pour vous dire que quel que soit le pays qu'on aura au sortir de cette guerre, l'Ukraine survivra.
Oui, c'est ce que vous avez dit. On écoute. Vous voulez réagir? Non, monsieur, je vous donne une minute pour qu'on évolue.
L'Ukraine survivra. La Russie n'effacera pas l'Ukraine de la carte du monde. Ce n'est pas son objectif. Comme l'ambassadeur Douban vient de dire que l'Ukraine veut s'orienter vers l'OTAN. Non, c'est faux. C'est pendant cette guerre que l'Ukraine a demandé son adhésion immédiate à l'Union européenne.
Mais de ce fait, si l'Union européenne...
C'était avant, c'était avant.
Non, 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 jamais.
Depuis
jamais.
5 ans, depuis 5 ans.
Je vous dis, j'ai la parole. J'ai la parole,
oui, oui,
s'il vous plaît. Depuis 1991 que nous suivons cela. J'ai été en Ukraine, j'ai été en Roumanie, je connais ces deux pays-là. C'est maintenant que l'Ukraine demande, comme la Moldavie et comme la Géorgie, que l'Union européenne les accepte. Et l'Union européenne ne va pas les accepter tout de suite. Parce qu'il y a une longue procédure. On a pris le cas de la Roumanie. Il a fallu 20 ans pour que la Roumanie entre dans l'Union européenne. Mais il n'est pas encore entré dans l'espace Schengen.
Oui, ça,
donc c'est un processus. Et il dit que l'Allemagne a mis dans son budget 100 milliards de, je sais pas, d'euros ou de dollars.
D'euros.
Mais c'est maintenant, c'est dans cette semaine-là. Parce qu'ils ont vu qu'il y a une sorte d'hégémonie de la part de l'URSS. Ils ont peur pour
la Russie.
Ils ont peur pour leur État. Alors que l'Allemagne, depuis la chute de Berlin, n'a jamais mis autant d'argent dans son armée.
Mais c'est ça.
Pour corriger cette
Oui, monsieur Douban, vous voulez réagir tout à l'heure pour écarter quelque chose.
Je disais que concernant l'Ukraine, depuis pratiquement 5 ans, l'Ukraine est dans une proximité avec aussi bien le monde libéral que l'Union européenne et l'OTAN. Des négociations ont été en cours, mais c'est un processus, comme ça a été rappelé ici, très long. Et vous savez très bien que ce n'est pas dans un contexte de belligérance ou de guerre qu'on peut ouvrir les brèches d'une adhésion, parce que l'acceptation équivaut à une prise de parti par rapport à celui qui est agressé, et ça va appeler aussitôt les nouveaux partenaires à réagir. Or, c'est extrêmement délicat. C'est pour cette raison que je dis que cette guerre a une particularité. Elle a une particularité en ce sens que de 1922 en 1991, l'Ukraine, comme la Russie, était dans une famille. Et depuis 30 ans, il y a cette dislocation. En même temps, ça a été rappelé aussi ici qu'en 62, on est parti de Moscou pour s'installer à Cuba. C'était en face de la Floride. Mais dans le cas actuel, c'est un ancien, comment dirais-je, c'est pas un suzerain, c'est pas un vassal, mais l'idée aujourd'hui, c'est qu'il y a un suzerain qui sort, qui veut créer un vassal, et entre le suzerain et le vassal, il y a ce rapport historique, cultuel, qui fait que aujourd'hui, tout le monde dans l'OTAN, comme dans l'Union européenne, se retrouve dans une situation d'attente et de grande observation, même si elle agit, ou bien ce bloc agit, simplement parce que il y a des velléités anciennes de culture, de proximité, de géographie, qui font que, et on est sur la terreur, l'équilibre de la terreur aujourd'hui, vous avez la Russie qui est là, qui a été l'agresseur, il faut dire la vérité.
C'est vous qui dites
ça. Oui, c'est une invasion, c'est connu.
On ne sait pas
et
aujourd'hui.
On a de l'autre côté, dans le bloc de l'OTAN aussi, ceux qui sont dépositaires de cette grande arme de dissuasion massive, c'est-à-dire les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, qui savent exactement, depuis le 8 août 1945, les conséquences des deux utilisations, Nagasaki et Hiroshima, de l'arme nucléaire, personne, je dis bien personne, ne veut prendre aujourd'hui le risque de pousser à ce qu'on arrive dans ce scénario catastrophe dans les actions aujourd'hui. C'est pour cette raison que place à la diplomatie, place aux sanctions économiques, tout en créant les passerelles pour éviter le pire. Et le pire, c'est l'utilisation de l'arme de dissuasion massive.
Oui, votre développement m'amène à poser cette question à M. Ziguele et à M. Beninga ici. Qu'est-ce qui doit arrêter la guerre aujourd'hui? Pensez-vous que le monde va encore s'embraser dans une troisième guerre mondiale? D'abord vous, M. Poulkassan Beninga.
Avant de répondre à votre question, il faut rappeler que le concept de souveraineté employé ici et développé par le ministre Ngwandika était un concept extrêmement compliqué. Il n'y a pas de souveraineté sans puissance. Et il faut entendre par puissance ici, comme quelqu'un l'a dit, la capacité de faire d'un État, la capacité de faire faire et la capacité de ne pas faire faire. Et aujourd'hui, on se rend compte que la question de la puissance, manifestement, l'Ukraine n'est pas un État puissant. Manifestement, l'Ukraine n'est pas un État puissant. Et l'Ukraine compte sur des États puissants pour pouvoir se défendre. D'aucuns estiment, à tort ou à raison, que ces États puissants l'ont lâché. Mais c'est ce que peut-être Badi appelle l'impuissance de la puissance. Et je m'explique très rapidement. C'est quoi l'impuissance de la puissance? Manifestement, les États qui sont réputés être des États puissants sont impuissants face à la situation de l'heure.
Ils devaient même protéger l'Ukraine.
Exactement, parce que on a parlé de l'équilibre de la terreur ici. Aujourd'hui, s'ils décident de mettre en œuvre leur puissance, le monde va s'effacer. Le monde va s'effacer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est et pourquoi c'est pour on trouve des voies de contournement. C'est assez surprenant que l'OTAN, par exemple, hier, refuse la zone d'exclusion aérienne. Si on met en place cette zone d'exclusion aérienne, c'est la troisième guerre mondiale qui allait commencer hier. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, l'envie des États de l'OTAN, les États membres de l'OTAN, l'envie des États-Unis, ce n'est pas d'affronter directement la Russie. Mais toute démarche visant à protéger militairement l'Ukraine nous plongera dans la Troisième Guerre mondiale. Et ce qui m'amène généralement à dire aux étudiants en relations internationales ou en communication politique et gestion de crise que le concept de Seconde Guerre mondiale devient un concept évasif. Il faut de plus en plus parler de la Deuxième Guerre mondiale. L'hypothèse de la Troisième Guerre mondiale n'est pas à écarter. Elle est faible, mais il ne faut pas l'écarter. Il n'y a plus d'acquis. Et cette reconfiguration, effectivement, de ce que j'appelle les blocs soviétiques, là, s'explique par ce fait-là. Et il faut aller, je dis pas des blocs soviétiques, mais des blocs géopolitiques. Et il faut aller au-delà. Regardez ce qui s'est passé aux Nations Unies. Le vote. Vous verrez qu'il y a certains États de l'Asie, notamment la Corée du Nord, qui n'a pas censuré, qui n'a pas observé l'abstention, a pris position. Ça témoigne de ce que nous sommes dans une reconfiguration des blocs géopolitiques. Absolument. Et ce sont ces blocs-là, si jamais il y a Troisième Guerre mondiale, vont clairement prendre position. Mais comme nous l'avons souhaité, et ce n'est qu'un souhait, ce n'est qu'un vœu, il ne faut pas aller vers la Troisième Guerre mondiale. Mais l'hypothèse, elle est faible, mais elle n'est pas à écarter.
Monsieur Séziguilé, sur cette situation rapidement.
Troisième Guerre mondiale, je ne pense pas parce que manifestement, tout est fait pour éviter cette situation, cette éventualité. Et ce matin, je suivais un débat entre Africains qui disait justement que l'idée de proposer une zone d'exclusion aérienne, c'était la porte ouverte vers un conflit nucléaire. Parce que si vous décrétez un no-fly zone, une zone d'interdiction de circulation des avions, ça veut dire qu'il faut surveiller l'interdiction. Et pour surveiller l'interdiction, vous utilisez des armes.
C'est clair.
Donc, ceux qui vont décréter cela doivent envoyer des moyens militaires pour le surveiller. Et ce serait l'occasion rêvée par les belligérants ou la Russie, si vous voulez, pour déclencher quelque chose d'irréparable. Mais je pense qu'on n'en arrivera pas là. Je souhaite qu'on n'en arrive pas là. Mais il faut qu'on tienne un discours de vérité. J'ai entendu mon doyen Gwandjika faire deux lapsus successifs. Il a dit l'URSS deux fois. Ça veut dire que lui aussi, dans son fort intérieur, il sait que Poutine, qui est un ancien officier de KGB, c'est-à-dire quelqu'un qui a toujours travaillé pour l'intégrité territoriale et l'influence politique de son pays, quelque part, développe l'idée de reconstituer l'Empire soviétique. Ça, c'est quelque chose de clair. Absolument. De la même manière, étant un officier des renseignements, donc un militaire, il travaille à ce que toute menace soit éloignée le plus loin possible de son pays. De l'autre côté, vous avez l'Ukraine qui a un régime démocratiquement élu et qui est donc la légitimité populaire pour parler au nom des Ukrainiens et qui a le choix des modèles de vie, des modèles d'alliance politique, des modèles de vie politique tout court qu'elle peut souhaiter pour sa nation. Donc il y a un choc, j'allais dire un choc asymétrique de deux légitimités. Et c'est là où la guerre ne peut pas régler le problème. Parce que vous comprenez très bien que si la Russie déclenche tous les moyens pour faire la guerre contre l'Ukraine, elle écrasera l'Ukraine.
Exactement, c'est ce que je voulais dire.
Et si elle écrase l'Ukraine, en ce moment-là, les autres pays de l'OTAN qui ont encouragé l'Ukraine à entrer dans l'Union européenne, puis peut-être dans un deuxième temps à l'OTAN, seront obligés de réagir. Donc je ne pense
pas...
Et s'ils
réagissent, du coup, on tombe
dans la Troisième Guerre mondiale. Et je pense qu'un dirigeant d'une grande nation comme la Russie ne peut pas être aussi inculte sur le plan politique et historique au point de favoriser cette situation. Je crois que tout ça, c'est des épreuves, c'est des montées d'enchères pour qu'on puisse arriver à une solution politique ou diplomatique qui puisse rassurer les uns et les autres. Et pour moi, pour ce qui me concerne, ma vision des choses, c'est que la guerre Russie-Ukraine n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé avec la Crimée et le Donbass.
C'est ça.
Tout à fait.
Parce que qu'est-ce que faisait la Russie quand elle a déclenché, quand elle a soutenu les séparatistes en Crimée et en Donbass? C'est pour créer une situation de zone tampon entre la Russie et l'Ukraine qui, légitimement, je le répète, a fait un autre choix de vie. Et il y a un autre élément qui fait que je crois que la guerre s'éloignera. Contrairement à ce que Fidel Mwadika a dit, les sanctions ont des effets.
Beaucoup d'effets.
Les sanctions ont des effets parce que c'est un problème économique. C'est un problème économique et je vais l'expliquer. La Russie et les États-Unis sont équivalents sur le plan militaire. Mais sur le plan économique et sur le plan de l'influence économique, les États-Unis sont la première nation du monde, suivie par plusieurs pays de l'Union européenne. Et la Russie se retrouve avec un PIB qui se situe entre celui de l'Espagne, et du Portugal. Donc en 10e ou en 11e position, comme sur le plan militaire, une confrontation militaire de longue durée est impossible mécaniquement entre la Russie et l'Ukraine, c'est-à-dire l'Ukraine ne peut pas tenir militairement devant la Russie. De la même manière, la Russie, sur le plan économique aujourd'hui, sur le plan des actifs économiques et de l'activité économique, ne peut pas résister à une sanction au point de déclencher, si elle déclenchait d'elle-même une guerre. Et je crois que les diplomates sont en train de travailler aujourd'hui, puisqu'on annonce un troisième round de discussion où les gens vont progressivement entrer dans le vif du sujet. C'est comme deux jeunes tourtereaux qui s'observent, ils font l'amour ou la guerre, et à un moment donné, ils sont obligés de se dire la vérité.
Le temps nous fait défaut. Hein. On va aborder maintenant la question des conséquences de ce conflit sur l'Afrique et l'Afrique centrafricaine. Je vous donne la parole, M. Gwandika. Vous avez deux minutes sur ce point.
Mon frère Martin Ziguele parle comme si c'était le président Ouattara qui parlait de l'impuissance économique.
C'est un honneur de vous comparer à Ouattara. C'est un honneur. C'est un grand homme.
Je vous dis que ce matin même, parce qu'ils écoutent que France 24 et les télévisions occidentales.
Pas du tout.
Il faut vous brancher. Si vous avez un VSA, vous aurez l'occasion de suivre ce que
Fidel Mwadika, je suis anglophone, je parle et j'écoute l'anglais.
Oui, mais donc vous écoutez BBC, tout ça.
Non, pas BBC.
Vous n'écoutez pas.
Il n'y a pas que BBC qui parle l'anglais. Il y a plus de locuteurs anglophones que francophones dans le monde.
Vous n'écoutez pas Russie Today.
Abordons maintenant la question des conséquences parce qu'on n'a plus de temps, M. Gwandika.
Poutine a rassuré les forces militaires russes qu'elles ne bombarderaient pas l'Ukraine. Et il a bien dit, si la Russie voulait effacer l'Ukraine, c'est en quelques secondes.
Revenons maintenant aux conséquences.
Maintenant, ce que vous n'avez pas dit, question que vous n'avez pas posée, quelles sont les conditions exigées par Moscou, par Poutine, pour que la guerre finisse?
Ça, on ne va pas s'attarder sur ce point. Maintenant, revenons sur les conséquences de cette guerre en Ukraine sur l'Afrique et surtout la centrafricaine rapidement.
Oui. Mais écoutez, cette guerre peut créer ce qu'on appelle la récession, la stagnation et l'inflation. Et ça se voit beaucoup plus au niveau de l'Europe. On parle du pétrole. Notre pétrole, on le prend au Nigeria. Donc ça ne nous regarde pas. Mais le pétrole à la pompe, s'il vous plaît.
À Londres.
Oui, le cours est fixé à Londres. Voilà. Le cours de coton, du café, c'est fixé à Londres. Ouais. Vous achetez votre café toujours à 100 francs ici au marché, alors qu'ailleurs, on l'achète à 1000 francs le kilogramme.
C'est une mauvaise comparaison.
Non, ce n'est pas une mauvaise comparaison.
Le prix du pétrole...
C'est moi qui ai la parole, Martin, s'il vous plaît. Quand on dit que la Russie et l'Ukraine, ce sont ces deux pays-là, greniers de l'Europe occidentale, en ce qui concerne le blé. Nous, si le blé n'arrive pas ici chez nous, nous n'allons pas mourir de faim. Parce qu'on a le manioc. Ce n'est pas la nourriture principale des Centrafricains.
Vous avez terminé.
Vous me donnez 3 secondes.
Pas 3 secondes, je vous donne une minute sur cette question.
Sur le pétrole, à la pompe, nous avons toujours les 820 ou les 830 francs CFA le litre. En France, aujourd'hui, c'est 3 euros le litre. On ne l'a pas encore suivi ici. Nous ne vivons pas avec le gaz russe. Il n'y a pas l'hiver ici chez nous. Donc, Ça ne nous regarde pas beaucoup.
Ok, et voilà. Ça vous l'avez déjà dit. Monsieur Paul Cresson sur ce point. L'Afrique et surtout le Centrafrique dépendent majoritairement de l'aide économique et financière de l'Union européenne, de la Banque mondiale, etc. Est-ce que la RCA doit s'attendre au pire si la crise ukrainienne persiste?
C'est très tôt de le dire. Mais avant de répondre à la question de la RCA, je voudrais dire deux choses. Une chose sur le plan international. Déjà, au sortir de ce qu'on appelle la période moderne, parce qu'il y en a qui aujourd'hui parlent de la postmodernité, nous assistons à la mutation du monde. Et il y a un événement majeur survenu en 2019 qui a accéléré ce processus-là, c'est la pandémie de Covid, même si les gens ne voient pas cela d'entrée de jeu. Et donc, à cela s'ajoute la crise aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. Ce qui est sûr, ce qui est certain, nous allons assister à la mutation et quelques aspects ont été évoqués aujourd'hui ici. Il y a une course à l'armement, notamment au niveau des pays de l'Europe. Mais il n'y a pas que les pays de l'Europe, l'Asie nous regarde. L'Asie regarde de très près ce qui se passe et s'organise, se réorganise. Les Africains doivent faire pareil, on n'a pas de choix.
que de s'organiser, de se réorganiser. Il y a des prises de position déjà au plan diplomatique au niveau de l'Union européenne, de l'Africaine, au niveau des ambassadeurs africains à Genève, ainsi de suite. Mais déjà, en ce qui concerne l'Afrique déjà en général, et puis la RCI en particulier, l'Afrique en général, il y a sur le plan économique, ce sera irréversible, qu'on ne veuille ou pas. Même si le ministre Ngandika rappelle ici qu'aujourd'hui, les prix sont encore stables, on va connaître des changements dans les jours à venir. Parce que nous sommes dans un monde interdépendant, au point que ce qui se passe au point A aura une répercussion au point B. Donc ça, il n'y a pas de débat. Maintenant, en République centrafricaine, l'enjeu est éminemment politique. Ne nous leurrons pas. L'enjeu est éminemment politique. Et j'ai envie de dire, bon gré mal gré, salue la décision de la République centrafricaine lors de ce vote aux Nations Unies. Les gens voudraient, par exemple, que la République centrafricaine prend parti pour la Russie ou pour les Occidentaux. Je pense que ce sera un mauvais choix. Aujourd'hui, la neutralité, même si je ne suis pas partisan de la neutralité, nous sert. Pourquoi ? Si nous votons pour les Occidentaux, mais la Russie aujourd'hui est un partenaire pour la République centrafricaine, ne serait-ce qu'au plan sécuritaire et dans une moindre mesure au plan économique, ça va jouer sur la République centrafricaine. Et si la République centrafricaine prend parti pour la Russie, ça permet à ceux qui veulent isoler davantage la République centrafricaine d'avoir davantage d'arguments. Et donc, à partir de ce moment-là, jusque-là, les effets ne sont pas ressentis comme peut-être les gens auraient souhaité, mais rien n'est à écarter. Au fur et à mesure que le conflit évolue, nous pouvons revenir pour analyser davantage ces effets-là.
Oui, M. Charles Douban, ne craignez-vous pas que des organisations humanitaires vont-elles réorienter leur assistance au profit des Occidentaux et provoquer, par exemple, leur départ massif pour les causes des Ukrainiens, parce que c'est en Europe cette situation?
Écoutez, je reviens sur ce qui a été dit ici. Cette guerre au niveau de l'Afrique a déjà trois conséquences. Le dernier vote à l'Assemblée générale qui vient d'avoir lieu il y a 48 heures a prouvé que les camps classiques sont revenus. Vous avez un camp autour de l'OTAN et des Occidentaux, vous avez un camp autour de la Russie et ce que nous avions connu dans les années 50 après la conférence de Badung, c'est-à-dire le non-alignement est revenu. Où l'Afrique est, à travers les 35 votes, est en train de montrer qu'elle ne s'aligne pas systématiquement sur tel ou tel camp pour avoir la possibilité de s'exprimer. Donc, au niveau diplomatique et politique, il y a ça qui revient. Donc, on revient au non-alignement. Deuxièmement, au niveau économique et financier, les conséquences, qu'on le veuille, qu'on ne veuille pas, seront là. Le blé produit par l'Ukraine et la Russie inonde le marché mondial jusqu'au marché centrafricain au kilomètre 5. Et nous en consommons quoi qu'on dise. Il y a aujourd'hui les sanctions qui font que des pièces de rechange ou des matières premières qui proviennent de ces zones nécessaires ou indispensables à notre vie collective, moins sur le marché, va avoir de conséquences sur notre pays. Ou
par exemple,
sur le pétrole. Quoi qu'on dise, à partir du moment où le prix se fixant au niveau de pays producteurs de pétrole, donc l'OPEP, nous n'en sommes pas producteurs. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas les conséquences parce que nous fonctionnons encore avec les réserves que nous avons constituées en attendant que la pénurie arrive. Même si on prenait au Nigeria, avec le dollar aujourd'hui à 100 dollars, le baril aujourd'hui à 100 dollars, il y a à terme de conséquences. Et donc, on ne peut pas éviter cela. Ensuite, et c'est là où je réponds à votre question.
Quelques secondes.
C'est vrai, avec ce qui s'est passé dans la gestion de cette crise, où effectivement on a vu des Africains discriminés et les réprobations qui en ont suivi. Aujourd'hui, il y aura effectivement des humanitaires qui vont aller en Ukraine. C'est clair, c'est vrai qu'on parle déjà de pratiquement 2 millions de réfugiés et déplacés. Mais je ne suis pas sûr que les crises en Afrique, qui sont déjà orphelines, vont aussi continuer à être là. Mais en même temps, il est clair qu'aujourd'hui, on va essayer de parer au plus pressé, de trouver une solution à l'Ukraine. Et on ne peut pas complètement déconnecter les crises du Sud par rapport à la crise parce qu'on est dans un contexte où la paix à tous les prix,
oui, doit
être une paix international.
On va écouter M. Ziguele sur les conséquences, très rapidement, parce que le temps le fait de fou.
Oui, je souhaite avoir au moins deux minutes. La première chose, c'est que je suis très flatté quand mon doyen me compare à Ouattara, parce que c'est vraiment un honneur pour moi de ressembler peut-être à cet homme qui a prouvé sur le plan économique au moins des choses positives pour son pays. Maintenant, la deuxième chose, c'est que je voudrais dire, c'est que naturellement, ce conflit-là aura de grandes conséquences sur l'Afrique. La première conséquence, les premières conséquences sont d'abord économiques. Parce que quelqu'un a parlé d'interdépendance politique, mais il y a une interdépendance économique. La Russie est un grand producteur d'hydrocarbures, est un grand producteur de gaz, d'aluminium, etc., etc. La Russie pèse à un certain poids dans les relations économiques, même si elle n'est pas, par rapport à son PIB, prépondérant en matière économique. Qu'est-ce qui va se passer pour le pétrole? Et c'est ce que, je m'excuse encore de vous avoir interrompu, mais c'était pour vous expliquer que les prix des matières premières, même si elles se trouvent en Afrique, dont le pétrole, ces prix-là sont fixés à la Bourse de Londres. Donc, à New York. Donc, le prix du pétrole qui est en train d'augmenter n'aura de répercussions en Centrafrique que lorsque les réserves actuellement en cours seront épuisées. Et vous savez, je suis député, membre de la commission finance, une grande partie de nos ressources vient de la fiscalité de la TVA sur la vente du pétrole. Et la TVA est reversée à l'État lorsqu'il y a un bénéfice, c'est-à-dire lorsque l'ensemble des dépenses est inférieur au prix de vente de l'essence. Mais lorsque le coût d'acquisition de l'essence sera supérieur au prix de vente, la TVA sera négative. Donc c'est l'État qui doit reverser maintenant aux traders et ça aura une conséquence directe sur le budget.
Non.
Soit vous subventionnez.
Ah bon? Non, non.
Soit vous subventionnez.
Il y aura inflation. Non. Et l'inflation va bénéficier,
Monsieur Ngwadika,
à l'État.
Je vous en prie. Je ne discuterai pas avec vous de télécommunications.
Je ne vous permettrai
pas de discuter sur ce problème de budget. La fiscalité.
Non, parce que vous pensez que nous sommes fiscalité, en plus,
non,
quelqu'un qui
je
cherchait le président de la République.
Non, je ne peux pas me permettre de dire que vous êtes obtus. Je suis en train de dire qu'une bonne partie du budget de notre pays vient de la fiscalité pétrolière et cette fiscalité, c'est le différentiel positif de la TVA. Si le prix du pétrole augmente et que c'est répercuté à la pompe, nous n'aurons plus cette TVA. Donc nous aurons un manque à gagner pour le budget. Ce sera une conséquence sur le budget. La subvention, je le rappelle, c'est une dépense qui vient en réduction des moyens financiers de l'État. Donc l'un dans l'autre, c'est un problème. Deuxième problème. Lorsqu'on parle de blé, vous voyez le pain. Mais il y a les beignets. Presque tous les Centrafricains mangent un beignet le matin.
Il y a les beignets de Calan.
Voilà, donc
il y a les beignets de Tongo.
Il y a cela. Et puis maintenant, il ne faut pas oublier quelque chose. C'est que, comme l'a dit le ministre Douban, comme l'a rappelé M. Paul Kréré-Béninga, comme vous l'avez dit vous-même, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec l'existence des blocs, il y a son penchant ou son pendant économique, le consensus de Washington,
absolument,
avec toute l'architecture Banque mondiale, FMI, etc. Mmh. Et donc ces pays-là font des choix aussi. Et ces institutions font des choix en matière de développement. Et la conséquence pour l'Afrique, je ne parle pas de la RCA seulement, c'est que il y aura une relecture par ces institutions des positionnements des pays par rapport au vote. Par rapport au vote qui a été
exactement
fait. Par rapport. Oui, oui. Vous savez, les relations internationales, c'est des chocs d'intérêts. C'est des chocs d'intérêts. Il n'y a pas de sentiment, c'est des chocs d'intérêts. Donc les conséquences pour l'Afrique seront aussi bien économique sur le plan des hydrocarbures.
Mais il n'y a pas encore la guerre mondiale, c'est ça.
Et les conséquences seront également politiques parce qu'il y a une reconstitution.
Vous l'avez déjà évoqué, M.
Voilà.
Ziguele.
Donc voilà ce que je voulais dire en complément ou en réponse.
M. Ziguele, M. Douban, M. Beninga, M. Ngwadika, sous votre permission, nous présentons nos excuses aux auditeurs centrafricains de la diaspora qui ont réagi, mais malheureusement, le temps nous fait défaut. Et c'est la fin de ce débat politique d'aujourd'hui. Voilà, Radun de Kieluka, émettant de Bongui en direct de la République centrafricaine. Nous avons décrypté et analysé la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Merci à nos invités d'avoir répondu à ce rendez-vous. Merci aussi à toutes et à tous d'avoir été des nôtres tout au long de cette discussion. Armand Nguindis et moi, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur www.radiondekiluka.org. Rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Prenez bien soin de vous car on ne vit qu'une seule fois dans la vie. Au revoir.
Pour une fois, un bon débat.